laisse maintenant la parole à Madame Fonsou, à notre professeur Fonsou, pour nous faire la synthèse de ces journées.
Bien, merci beaucoup. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir associé à la préparation de ce congrès. J'ai pris beaucoup de plaisir et je vois que l'assistance nombreuse montre finalement que les choix qui ont été faits ont intéressé. Peut-être parce qu'ils abordaient des sujets très complexes, posant des problèmes dans de la pratique. Et les réponses qui ont été apportées, j'espère, permettront d'améliorer le suivi des salariés. Alors, pourquoi ce thème, effectivement, M. Arnaudot vient de répondre, importance numérique des travailleurs exposés dans le BTP, on a des chiffres, on vient les avoir, multiplicité des substances, il suffit de se souvenir de l'enquête peinture avec plus de 400 produits commerciaux et un nombre important de substances à l'intérieur de ces produits, et des domaines d'application, puisque on vient de voir la quasi-totalité des métiers du bâtiment et des grands publics est concernée. Pourquoi aussi? C'est parce que les progrès dans les connaissances scientifiques sont apportés chaque jour parce qu'il y a des expertises qui se mettent en place sur les sujets complexes, parce que les différentes institutions qui travaillent produisent des résultats et qu'il est intéressant de les avoir résumés plutôt que d'aller les chercher sur les sites qui sont particulièrement complexes à lire et à analyser. Et là, on a eu la chance d'avoir des résumés tout à fait pertinents. Et c'est... Alors pourquoi également? C'est parce que vu les salariés, et comme nous l'a expliqué Madame Doguet, il y a très souvent une méconnaissance, encore maintenant, et voire un déni du risque chez les salariés qui confondent encore odeur et toxicité, bien que cette étude nous ait montré que certaines pistes étaient assez intéressantes, en particulier l'utilisation de caractéristiques du métier, je pense au concept de propreté chez les peintres qui peut être utilisé pour faire progresser la prévention. Persistance de situations à risque immédiat, on l'a vu dans la grande enquête d'écapage qui nous a été présentée, et, ou encore de risques connus, et je n'ose pas trop parler de saturnisme, parce que ce qu'on nous a présenté, c'était surtout des imprégnations excessives, et mon ancienneté dans le métier de toxicologie me fait me souvenir de vraies intoxications aiguës que l'on a vues il y a une trentaine d'années, et qui, grâce à la prévention, ont totalement disparu, mais on voit encore des situations pour lesquelles on peut s'interroger au moins sur le risque à long terme lié à ce méthane. Et puis... on a énormément de professionnels qui interviennent dans la gestion du risque. On le voit d'ailleurs dans la diversité des professions qui sont dans cet amphi. Et il reste à optimiser encore leur intervention sur le terrain. Et puis, dernière raison, c'est qu'il y a une mobilisation forte des professionnels de santé au travail. L'exemple qui en a été donné au cours de ces journées, c'est la mobilisation de nos confrères du bâtiment sur la grande enquête d'écapage, avec un travail qui a été fait par plusieurs dizaines de médecins. Donc, sur les dangers, on a eu une actualisation donc, des connaissances qui s'est faite sous deux approches. L'approche médicale, par problématique moderne, et j'ai entendu dans cet amphi ce matin une remarque disant, mais on nous a dit que finalement le plomb n'était pas reprotoxique. Je crois que c'était une interprétation un peu erronée. Car ce qui a été dit, c'est qu'il y avait une situation extrêmement complexe dans l'évaluation de troubles de reprotoxicité chez l'homme, que de multiples facteurs intervenaient, que ce n'était pas facile d'identifier dans ces multiples facteurs ce qui revenait à un facteur environnemental. Et on a suffisamment d'arguments en toxicité expérimentale et sur des études épidémiologiques pour dire que le plomb est un reprotoxique pour l'homme. Même si, au faible dose d'exposition, il reste un questionnement. Et ce qu'il faut retenir de ces deux exposés sur la reprotoxicité masculine, c'est que le médecin du travail a un rôle à jouer dans au moins l'enregistrement de données sur la reprotoxicité masculine avec un paramètre extrêmement simple qui est le délai nécessaire à concevoir chez un homme jeune qui souhaite avoir un enfant. Et c'est un paramètre d'interrogatoire qui est facile à retrouver et que, je crois, dans la pratique, nous n'aurons pas l'habitude de rechercher. Sur les troubles psycho-organiques aux solvants, rien de très nouveau sur, sur effectivement l'existence de ce trouble de psycho-organique. Mais peut-être là aussi, une attitude assez ordonnée pour le médecin du travail qui doit commencer effectivement à chercher ces troubles dès qu'il y a eu une exposition de moyenne intensité pendant environ 5 ans ou peut-être un peu moins quand il y a eu une durée plus brève. Et avec une méthode relativement simple qui repose là encore sur l'interrogatoire avec l'aide d'un questionnaire normalisé, l'Euroquest, et des examens complémentaires simples avec un recours ensuite à des examens psychométriques. Et là peut-être un point à retenir, toujours travailler avec la même équipe de psychologues cliniciens pour que ces psychologues soient bien informés du risque solvant, ce qu'ils connaissent rarement, effectivement. Alors, deuxième approche qui a été privilégiée dans cette analyse des dangers, c'est l'approche par grande famille de substances. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur des substances qui apparaissent, les nanomatériaux, le formaldéhyde, les fibres fines et courtes d'amiante. Donc là, effectivement, on a eu des exposés de scientifiques, donc il faut retenir pour les nanomatériaux que le principe de précaution s'impose en attente de données chez l'homme. On a suffisamment de données expérimentales pour voir que la toxicologie traditionnelle avec ses modes de contamination et surtout de diffusion dans l'organisme un petit peu bouleversé, que l'on a une imprégnation importante par ces nanomatériaux et des effets systémiques qui apparaissent pour des doses relativement faibles en masse. Pour le formaldéhyde, qui est une vraie question et qui la pose le problème de l'historique des expositions, on y reviendra tout à l'heure, on a la chance d'avoir un rapport qui permet de déboucher à partir de données qui ont été traitées aussi sous l'angle qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment, à partir de matrices sans emploi, exposition historisée, c'est-à-dire par grande période d'utilisation. On a la chance d'avoir un outil qui peut permettre de retracer les expositions passées à cette substance dont les effets cancérogènes, et ça il faut le garder également en mémoire, ne semblent intervenir que lorsqu'il y a une exposition relativement importante, mais cela touche, vous l'avez vu, M. Lasfar nous l'a dit, plus de 1000 salariés dans le bâtiment. Fibres fines et courtes d'amiante, le professeur Paris a montré que nos méthodes de métrologie amiante utilisées en milieu de travail sont insuffisantes pour évaluer l'exposition à ces fibres, donc changement de paradigme pour cette métrologie. Quant aux autres dangers, nous avons vu effectivement une approche, là cette fois-ci, de terrain sur les substances employées dans une même utilisation. Alors, à partir de l'étude de terrain, M. Garnier a reclassé effectivement les dangers des différentes substances, bon, en nous rassurant sur les produits de substitution et en voyant apparaître donc les esters dibasiques qui seront certainement les produits de demain. Enfin, plusieurs exposés aujourd'hui ont traité de façon tout à fait magistrale le problème du soudage et surtout le problème du brasage fort en ciblant bien les dangers principaux des fumées de soudage et en ciblant en particulier les métaux dans le cadmium, en nous annonçant des nouveaux métaux qui apparaissaient et en rappelant les problèmes des substances annexes. Enfin, toujours sur les dangers, il y a une dernière notion qui ressort de ces journées qu'il faut vraiment garder en mémoire. On l'a vu tout à l'heure quand on a évoqué le problème des tableaux des maladies professionnelles. C'est la grande modification dans le temps de la nature même des expositions, de leurs dangers. On vient d'en avoir un exemple tout à l'heure avec le passage goudron-bitume. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra peut-être le repréciser dans l'enquête primaire de 2009 et également retenir la grande modification de composition des huiles. On ne peut pas se permettre actuellement de dire qu'une huile minérale mise sur le marché est un produit cancérogène quand elle est neuve. Donc il faut faire très attention à cette historique des technologies et quand on reprend effectivement les expositions passées, il faut savoir que le tournant a été pris dans des périodes qui sont pas si vieilles que ça quand même, qui datent entre les années 80 et 90 pour ces différents programmes. Mais c'est une notion importante à garder en mémoire, surtout quand on va essayer de retracer les expositions passées. Alors, les dangers, on a vu, je crois qu'on a fait quand même un tour assez complet de la situation. Maintenant, pour évaluer exactement le risque, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire que cette évaluation, elle est complexe et que grâce maintenant à nos équipes pluridisciplinaires, elle gagne en rigueur, avec la maîtrise de l'analyse des conditions de travail qui doit, tout le monde l'a redit encore aujourd'hui, être antérieure à toute prescription et à toute mise en œuvre d'outils métrologiques et biométrologiques. Une autre chose qui me paraît extrêmement importante et qui sera réalisée par la publication des travaux qui ont été menés ces jours-ci, c'est de mutualiser les résultats. Il y a certaines choses qui sont définitives, je pense aux résultats de mesurage sur le décapage thermique des façades. Bon, on a des résultats, je pense que ce n'est peut-être pas indispensable de recommencer ce type de travail. L'évaluation du risque, donc, on a vu que le repérage est important, dans l'inventaire des produits utilisés, l'enquête nationale décapant est quand même assez illustrative, avec la persistance encore majeure de la présence du dichlorométhane. Une approche originale nous a été présentée par typologie d'entreprise. M. Poirier nous a dit que les études par catégorie de marché nous permettaient déjà une approche très pragmatique de la nature des produits qui allaient être utilisés et donc permettaient aussi d'avoir un langage commun avec l'entreprise. Je pense que c'était quelque chose d'original. Et enfin, je voudrais saluer l'exposé ce matin de Catherine Nice qui, sur une situation abominablement complexe, nous a donné des pistes pour aborder les problèmes de chantier de dépollution. Alors, la métrologie d'atmosphère et la biométrologie, je ne vais pas reprendre tout ce qui vous a été dit ces jours-ci. On l'a bien vu dans leurs places respectives, les limites, le fait qu'effectivement, elles vont précéder de toute cette réflexion que l'on vient d'évoquer. Dans la biométrologie qui a vraiment maintenant, qui est inscrite, j'allais dire, dans les gènes de la médecine du travail, c'est une bonne chose, parce qu'il y a 25 ans, ce n'était pas le cas, eh bien, on voit bien l'utilisation de la biométrologie du plomb qui a été largement débattue tout à l'heure. L'intérêt également, sur certains métaux, je pense au cadmium, de cette approche chez le soudeur. Et puis la démonstration de situations dangereuses, l'exemple sur la N-méthylpyrrolidone qui a été présenté par la CRAM de l'Île-de-France était une belle illustration de ce que peut faire une équipe associant donc une CRAM et des médecins du travail. Alors, bon, on a parlé donc d'évaluation du risque, on a parlé aussi largement gestion du risque. Alors, la substitution, mais on n'attend pas les résultats de Rich, et heureusement, vous l'avez bien compris, pour parler substitution, oui, en attendant Rich, on a déjà fait beaucoup de choses. Bon, le goudron, depuis longtemps, a disparu, le goudron de houille a disparu au profit du bitume. Le dichlorométhane, lui, n'est pas encore largement substitué. On voit se pointer des produits de substitution qui semblent bien intéressants. L'amélioration technologique des produits aussi, là j'ai dit un mot tout à l'heure sur les huiles, je ne vais pas me redire. Et tous les éléments de la gestion du risque ont également été évoqués. Certes, les éléments réglementaires. J'ai beaucoup apprécié la communication de Madame Maison sur le nouvel étiquetage. Elle nous a présenté avec gentillesse et efficacité ce changement de paradigme qui va nous amener effectivement à refaire nos propres repères et puis à essayer de le transmettre aux entreprises et aux salariés. Et je crois que ce problème de formation des travailleurs va être un travail de longue haleine, mais l'INRS va nous aider. Quant à la formation des salariés, plusieurs équipes ont montré qu'elles intervenaient très en amont, que les médecins du travail intervenaient dès la formation des apprentis. On l'a vu dans deux circonstances, en particulier dans les écoles de soudage. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut sensibiliser donc les futurs travailleurs surtout quand ensuite ils sont exposés, ils sont repris par le métier, et que les anciens banalisent parfois les dangers et les risques. Alors, bien sûr, il y a également une approche de limitation des expositions à la source. L'exemple que nous avons montré tout à fait spectaculaire. On voit que un dispositif maintenant testé pourra limiter l'exposition aux fumées des ailes. Moi qui ai toujours les yeux qui piquent quand je rentre dans un tunnel, je suis particulièrement contente. Et puis, pour les équipements de protection individuelle, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais retenir qu'une chose, c'est que quand ils sont mal portés, eh bien, ils ne donnent pas une grande efficacité. Et on l'a vu pour les gants et le plomb, si on ne change pas les gants et s'ils continuent à véhiculer des particules de plomb, eh bien, on peut s'interroger sur leur efficacité. Et je vais vous livrer quelques conclusions avant de passer la parole à notre président du Congrès. Eh bien, tout d'abord, le risque chimique est présent dans des situations, vous l'avez vu, très diversifiées, vous le vivez au quotidien, mais elles sont évolutives dans un sens de complexité, on vient de le voir avec les éléments d'éco-construction, mais aussi, heureusement, dans un sens de moindre toxicité, je ne me répéterai pas, sur l'évolution sur les huiles et sur les bitumes. Donc, la deuxième conclusion, c'est qu'il y a une interaction forte et qui se renforce, je trouve, de l'ensemble des préventeurs. Que les entreprises, on l'a cité à plusieurs reprises, quand elles n'ont pas conscience du risque, peuvent également ne pas adhérer à cette logique de prévention. Il y a une grande inégalité dans la prise de conscience du risque chez les entreprises et bien sûr chez les salariés. Alors, quelques points pratiques pour terminer. L'ensemble des médecins du travail est confronté à la traçabilité des expositions actuelles. Donc, le dossier médical, il y a une recommandation qui vient de sortir, appuie sur ce point. Mais il va falloir un jour retracer les expositions passées. Il y a eu des interventions dans la salle en ce sens. Qu'est-ce que je fais pour les anciens qui ont peut-être été exposés aux dérivés de la houille? L'entretien en santé au travail paraît avoir toute sa légitimité. On vient de voir que dans deux domaines au moins, l'interrogatoire permettait de retrouver des troubles simples, l'interrogatoire sur les troubles de reproduction, l'interrogatoire sur la recherche de petites modifications cognitives qui permettent de suspecter un effet à long terme des solvants. Un point également sur la cohérence des suivis médicaux. On a fait quelques propositions, on a vu que sur les plombémiques, il y avait une petite hétérogénéité. Ce point de cohérence soucie beaucoup l'ensemble de la profession et demande que soit renforcée l'élaboration de guides de bonne pratique. Le bâtiment est assez exemplaire dans ce domaine, qui a travaillé depuis longtemps à la mise en commun de documents qui permettent d'assurer une certaine cohérence d'action. Je pense aux femmes qui donnent effectivement des seuils de mise en SMR, et je trouve que ce travail est tout à fait exemplaire. Et qu'il doit être développé. Alors il y a une piste de développement qui se met en place, c'est avec l'aide de la SED, de la Haute Autorité de Santé, l'élaboration de recommandations. Alors je suis très mal placée pour vous en parler, parce que vous attendez tous la recommandation poussière de bois, et elle n'est toujours pas sortie. Donc je voudrais simplement que ces nouvelles méthodes donnent une force aux recommandations, mais qu'elles sont longues et difficiles à mettre en œuvre. Enfin, et que l'on attend pour ces recommandations la forte participation de l'ensemble de la profession. Juste un mot pour terminer sur les suites scientifiques du Congrès. Tous ces acquis nombreux, précis, très experts qui vous ont été montrés vont être mis en ligne et l'ensemble des publications et des exposés sera publié dans les archives des maladies professionnelles et de l'environnement. Et puis, ces données qui ont été effectivement fait l'objet de synthèses très documentées pourraient être la base d'élaboration de recommandations. Et là, c'est à la tête du pied, à la tête que je fais. Voilà, je vous remercie.